Alors après, il traite des, alors on traite ensuite des sanctions des biens du monastère, de la nourriture et de la boisson. Alors, juste un passage. Sans doute, lisons-nous, que le vin n'est nullement fait pour les moines. Mais il n'est guère possible de les en persuader dans les temps où nous vivons. Convenons du moins de n'en pas boire à satiété, mais de rester en deçà, car le vin fait déraisonner même les sages. Vous voyez, c'est pas mal ça. Un peu plus loin, une autre idée. L'oisiveté est ennemie de l'âme. Pour éviter ce danger, les frères s'occuperont à certains moments au travail des mains et consacreront d'autres heures également déterminées à l'étude des choses divines. Et ça, c'est capital, comme dira plus tard Benoît XVI, oui. Parce que c'est de là qu'est sortie toute la, comment dire, toute la technique et finalement toute la supériorité technique de l'Occident sur les autres cultures. Parce que hérité du judaïsme, le sage, parce que tous les rabbins doivent avoir un travail manuel. Beaucoup de rabbins étaient des cordonniers, des gens qui avaient un travail manuel, justement pour pas avoir la grosse tête, si on peut dire, pour garder l'équilibre, etc. Et donc, dans le monachisme, on va reprendre cette tradition spirituelle, qui est en même temps une obligation matérielle, je dirais, de l'ordre de la charité, parce que pour que chacun ait quelque chose, ben, il faut que tous travaillent, donc que chacun se mette au service de tous. Et en fait, c'est à partir de ce travail à la fois envisagé comme équilibre spirituel et comme exercice, comme instrument de la charité vécue, qu'on va développer les techniques qui vont permettre d'améliorer l'agriculture, qui vont permettre de créer la pisciculture, etc. Tout ce qui a civilisé le monde, surtout de l'Europe centrale. Parce que l'Europe occidentale, elle était déjà civilisée par les Romains. Et Saint-Benoît, finalement, ne fait qu'appliquer la sagesse agricole des villes romaines au monastère, mais les monastères vont devenir les fers de lance de l'évangélisation de l'Europe germanique et slave, et en fait c'est autour des monastères que vont se créer les villes, etc. Et c'est avec la culture des monastères, donc cette culture où on produit pour satisfaire les besoins, donc par charité en somme, qu'on va développer aussi des techniques qui permettent de produire mieux. On va défricher, on va assainir, on va assécher, on va irriguer, on va développer les techniques de trait pour les animaux de trait. On va améliorer leur vous savez, c'est là au moment où on crée le oui, on passe du collier au lit, je sais pas quoi, on joue, hein, enfin je sais pas quoi. Et puis en fait finalement c'est comme ça que les techniques vont se développer en même temps que les arts libéraux qui sont au service de l'interprétation du verbe, de la parole, et qui servent pour le chant, etc., etc. Donc vous voyez, la culture monastique est véritablement la culture monastique, avec cet équilibre bénédictin. Vous voyez, par exemple, l'érémitisme un peu timbré des Irlandais là, qui partaient passer leur vie entière à tourner en rond sur une île, sur un îlot perdu au large de leur île, qui est le plus beau pays du monde. Évidemment, ça n'a pas beaucoup d'effet sur la civilisation. Sauf quand ces braves moines, après, passent sur le continent et créent des monastères qui deviendront des fers de lance de l'évangélisation, comme Saint-Colomban et tout ça. Mais donc cette espèce de mesure bénédictine, eh bien, ça va être vraiment le creuset de la culture de l'intelligence et de la culture des mains, si on veut, c'est-à-dire de la technique. Et c'est ça qui va civiliser l'Europe, en reprenant finalement Saint-Benoît reprend finalement ce qui marchait dans la vieille culture communautaire romaine, assaisonné d'évangile en somme. Voilà. Et ça, c'est pour ça qu'on est vraiment débiteur de oui, voilà. Et du monachisme en général et du monachisme bénédictin à cause de cette volonté d'équilibre entre les œuvres de l'esprit et les œuvres des mains, en somme. Alors après, qu'est-ce qu'il nous dit? Si on enjoint à un frère des choses impossibles, s'il arrive qu'on enjoigne à un frère des choses pénibles ou même impossibles, il commencera par accueillir en toute mansuétude et soumission l'ordre donné. Mais s'il voit que la charge qu'on lui impose surpasse la mesure de ses forces, il attendra patiemment le moment favorable de soumettre au supérieur les motifs pour lesquels il ne peut exécuter ses volontés, sans opposer d'ailleurs ni orgueil, ni résistance, ni contestation. Si toutefois, après avoir entendu ses raisons, le supérieur persiste dans son propre sentiment et maintient l'ordre donné, l'inférieur doit croire que cette épreuve est pour son bien, et puisant dans la charité la confiance que Dieu lui viendra en aide, qu'il prenne le parti d'obéir. Donc, vous voyez, il y a quand même le fait de représenter enfin, de faire des remarques. C'est pas une obéissance aveugle et stupide, mais c'est une obéissance aussi qui est destinée au progrès spirituel du moine. Alors, aussi, un chapitre que j'aime bien, c'est l'avant-dernier, chapitre 72, du bon zèle qui doit animer les moines. Il est un zèle amer, un faux zèle, qui sépare de Dieu et qui conduit à l'enfer. Il est par contre un saint zèle qui ne sépare que des vices et qui mène à Dieu ainsi qu'à la vie éternelle. Ce bon zèle, les moines doivent s'y exercer avec la plus ardente charité, ce qui revient à dire qu'ils s'honorent mutuellement de respectueuses prévenances. Vous êtes tous allés dans des monastères bénédictins. Hein. Vous avez vu comment souvent, parfois, un moine s'efface devant un autre, où il y a cette espèce de courtoisie. Et bien, cette courtoisie monastique bénédictine, elle a aussi façonné la courtoisie de notre Europe. Hein. Le respect d'autrui, même dans voilà, cette inclination, tout ça. Alors qu'ils supportent avec une inaltérable patience les infirmités physiques ou morales de leurs prochains. Vous vous souvenez de ce que dit Sainte Thérèse d'Avila, non, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à propos de sa voisine de cœur, 2 heures par jour à l'oraison, qui tripotait son rosaire et qui l'empêchait, elle, de se recueillir. Donc, supporter avec une inaltérable patience les infirmités physiques ou morales de leurs prochains. Eh bien, je peux vous dire que ça a été un peu mon expérience là du mois d'octobre, en voyant l'attitude de certains soignants à l'hôpital, en voyant des gens qui sont d'une inaltérable patience avec des patients. On dit souvent que les patients doivent être patients, ça souvent c'est le cas à l'hôpital, hein, il ne faut pas être pressé. Mais parfois, on voit aussi que les soignants sont d'une inaltérable patience. Vis-à-vis des patients qui ne sont pas toujours patients, justement. Et là, ben voilà, ça c'est aussi un des éléments qui a marqué notre culture européenne. Qu'ils se rendent à l'envi une exacte obéissance, que nul ne recherche son propre avantage, mais plutôt ce qu'il juge profitable à autrui, qu'ils échangent entre eux d'honnêtes marques de charité fraternelle, que leur crainte de Dieu soit inspirée par l'amour, qu'ils portent à leur abbé une affection humble et sincère, qu'ils ne préfèrent absolument rien au Christ, lequel daigne nous conduire tous, tant que nous sommes, à la vie éternelle. Vous voyez, c'est comme bien dit. Hein, et alors, le dernier chapitre de la règle. En composant la présente règle, nous avons voulu faire connaître une observance monastique propre à nous garantir une certaine dignité de mœurs et à servir de point de départ pour la sanctification. Quant à presser la marche vers l'achèvement de la vie surnaturelle, chacun saura tirer de la doctrine des pères les préceptes capables de les mener jusqu'au sommet de la perfection. Est-il en effet dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament une seule page, une seule parole inspirée de Dieu qui n'enseigne les normes les plus exactes de la conduite à tenir ici-bas? Est-il un livre des saints docteurs, nos pères dans la foi catholique, qui ne nous fasse entendre la manière de nous élever par une voie droite et rapide jusqu'à notre Créateur? Et les conférences des pères, c'est celle de Cassien, et leurs institutions, et leur vie, c'est encore Cassien, sans parler de la règle de notre père Saint Basile, qu'y trouve-t-on, si ce n'est tout l'outillage des vertus proposé aux moines pour mener une vie sainte dans l'obéissance? à « Quand on songe à quel point nous restons lâches, remplis de défauts et de négligences, il y a de quoi rougir de confusion. Pour toi, mon frère, qui te hâte vers la patrie céleste, accomplis d'abord avec l'aide du Christ cette règle que nous te présentons comme une initiation très modeste. Un jour viendra, sous la protection de Dieu, tu monteras plus haut et pourras atteindre les sommets de doctrine et de vertu que nous venons de mentionner. » Donc, en fait, la règle de Saint-Benoît, c'est vraiment une école du service de Dieu. C'est une propédeutique à une vie monastique où, finalement, vous voyez, c'est la logique paulinienne. Dans l'Ancien Testament, il y a une loi extérieure. Eh bien, cette loi doit devenir intérieure. Et le moine achevé, c'est celui qui n'a pas d'autre loi que la loi intérieure de la grâce qui est en lui et qui est mûre alors pour vivre la vie érémitique, la vie d'anachorète, en un mot. Alors, vous voyez, certainement que saint Benoît était très humble lui-même pour dire des choses pareilles, parce que, quand même, sa règle, la plupart des moines restent quand même dans le monastère. Hein. Et ils n'ont pas fini de leur initiation. Enfin, voilà un bel exemple de cette sagesse, on peut dire cette sagesse toute romaine. Ratzinger dit souvent que quand on parle du christianisme, on dit les racines juives et fécondées par l'esprit grec. Mais il dit on oublie trop. On oublie trop aussi le pragmatisme juridique romain. Et en fait, c'est quand même très très vrai, parce que les Grecs ont été capables de faire de splendides constitutions qui n'ont jamais été appliquées hein, dans leur cité. Par contre, les Romains, à force de pragmatisme, ont réussi à composer un empire qui a duré quand même presque 2 millénaires en étant christianisé à l'époque de Constantin. Donc, voilà. Hein, donc l'esprit juridique romain, on le voit ressortir dans la règle de saint Benoît. Et vous voyez qu'il a d'ailleurs... il faut dire aussi que Charlemagne et Louis le Pieux n'y sont pas pour rien, mais aussi parce que, avec leurs conseillers, ils se sont bien rendus compte que c'était la règle la plus adaptée, finalement, à leur empire, plus adaptée que des règles plus austères ou moins sociales ou moins civilisationnelles, si on pourrait dire, civilisatrices, que celle de Benoît, finalement moins romaine en un mot. Hein. Voilà. Donc. Vous voyez, en citant à la fin saint Basile, en citant les conférences et les institutions de saint Jean Cassien qui les a ramenés d'Égypte, Benoît se situe dans une tradition monastique orientale, celle de saint Pacôme, celle de saint Basile, et en même temps occidentale, hein, la manière dont justement hein, saint Jean Cassien l'a adapté à l'Occident, la règle du maître aussi, ce fameux maître anonyme, et puis probablement de saint Augustin aussi. Hein. Donc voilà. On pense qu'un tiers du texte de la règle est repris de cette regula magistri, de cette règle antérieure à partir de laquelle il a fait la sienne. Alors en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que aussi saint Benoît, enfin, c'est là qu'on voit que tous les grands saints se rejoignent. Quand on demande vous savez, aller au XVIe siècle, on est après le XVe siècle, on est dans toute la logique du Dieu transcendant, invisible, etc. Et on considère un certain nombre de mystiques, ces mystiques qui seront combattus notamment par la tradition carmélitaine, qu'on considère que le Christ, c'est avec sa visibilité, son humanité, etc., et puis son enseignement assez terre-à-terre finalement, c'est juste une étape dans le chemin vers l'indicible, l'ineffable, etc., etc. Et ça, Thérèse d'Avila a réagi de manière très nette. Elle dit, il n'y a pas d'autre accès à Dieu que le Christ. Et là, avec saint Benoît, on a exactement la même chose. Hein. Le Christ est toujours présent dans la règle. Il est l'abbé des abbés, si l'on peut dire. Donc on a un très grand christocentrisme dans la règle de saint Benoît, et c'est vraiment la pierre de touche de la spiritualité chrétienne, hein, je dis même pas catholique, mais chrétienne. Une spiritualité où le Christ n'est plus qu'une étape, une étape à surmonter, un moment dialectique à dépasser, ou quelque chose comme ça, c'est plus une spiritualité chrétienne.
Théard, par exemple.
Oui, un peu, oui, c'est ça. Alors Théard, il dit bien que disons que tout pointe vers le Christ cosmique, c'est-à-dire le Christ dans sa cosmocrator, hein, le Christ ressuscité qui gouverne tous les éléments du monde dans l'eschatologie. Alors c'est vrai que le temps pointe vers ça, mais c'est très poétique. Hein. À mon avis, c'est pas faux, mais par contre, il y a des spiritualités, par exemple. En 2000, là, quand Ratzinger a tapé du poing à la doctrine de la foi avec la déclaration de Dominus Iesus, c'était pour dire à toute une série de missionnaires qui avaient tendance à dire « Bon, ben, voilà, nous, en Occident, on a eu le Christ, qui est un chemin d'accès vers Dieu, mais vous, en Orient, vous avez Bouddha, vous avez machin, etc., etc. Et puis, tout ça, c'est des voies différentes qui mènent au même lieu. Et puis, finalement, vous êtes sauvés par vos propres traditions religieuses. » La réponse de Ratzinger, c'est dire « On est sauvés que par le Christ, même si, à son insu, même si on fait le bien sans le connaître, eh bien c'est quand même lui qui sauve, et il est l'unique voie d'accès au Père. » Alors pour ça, il suffisait de lire saint Jean, hein, mais néanmoins, il a fallu le répéter, et à régulièrement, aussi bien dans la spiritualité que dans l'apostolat, et il faut réaffirmer l'unicité du Christ comme chemin d'accès vers le salut et même vers la plénitude de la vie mystique, hein. C'est lui qui nous introduit dans la longueur, la hauteur, la largeur et la profondeur du mystère de Dieu. Alors voilà, notre Benoît, c'est quelqu'un de bien.